Mesdames, Messieurs, chers collègues, cher Victor, je suis très honoré de participer à ce séminaire. Il y a eu au commencement une annonce qui aurait été cohérente avec le sujet que nous venons d'apprendre, donc Dürer et Erasme, mais ce sujet a été si bien présenté par Victor Stoikita que j'ai préféré attirer votre attention, je l'espère, sur une autre manière de penser au voyage des images au cœur de l'Europe. Et donc, aujourd'hui, il s'agira surtout de cette fresque à Monte Oliveto Maggiore, près de Sienne, et les conséquences que la deuxième ou troisième fois où je me suis rendu pour voir ce cycle magnifique de fresques consacrées à Saint-Benoît a suscité dans ma mémoire. L'Europe des images me tient à cœur et c'est peut-être la plus belle, sinon la seule Europe dont nous disposons. Nos musées sont des incarnations de l'Europe. On vient au Louvre pour voir des maîtres italiens, hollandais, flamands, anglais. C'est l'Europe qui se rend visite. Mais les images sont aussi un formidable réservoir pour la mémoire personnelle et collective. Nous avons l'habitude, nous les littéraires, de résoudre des cruces textuelles par la philologie. Un texte explique un autre texte. Un manuscrit porte des compléments à un texte imprimé, etc. Je voudrais aujourd'hui, en partant des mêmes maîtres de la Renaissance que Victor Stoikita nous présente dans ses cours, vous proposer de résoudre un problème historique contemporain, c'est-à-dire de notre siècle, par et grâce à la mémoire des images. Ce fut un parcours bien connu au Moyen-Âge. Les parois des églises devenaient une sorte de Biblia pauperum, la Bible des illettrés, pour des fidèles qui n'avaient pas la possibilité de lire le texte biblique. C'est un exemple fondé et bien connu qui m'encourage à vous présenter la crux que voici. Je commencerai par l'exemple contemporain qui m'est suggéré du fait que nous venons juste d'évoquer le centenaire de la révolution d'octobre en Russie. Et les dissidents russes racontaient, avec une circonspection pleine d'ironie, que la raison profonde pour laquelle le mausolée de Lénine résistait toujours sur la place Rouge était que, je le cite, « même la terre ne voulait pas de lui ». C'est une formule qui m'a été évoquée il y a 20 ans par maître Otar Yoseliani, réalisateur et grand auteur de cinéma, témoin de liberté, homme d'ironie courtoise et de sagesse humaniste. Il m'a autorisé à le citer, je le remercie in absentia pour sa générosité. L'occasion a été la suivante. Il venait d'être récompensé à Venise, il y a exactement 20 ans, pour son film que je vous conseille, Brigand, chapitre 7. Pourquoi chapitre 7 ? Parce que l'humanité est pleine de brigands et donc il y a déjà eu 6 ou 6 000 chapitres de brigands. Et c'est l'histoire derrière laquelle on voit très bien la parabole de l'Union soviétique, d'où il avait dû partir parce que ses films étaient constamment censurés et s'installer à Paris où il vit. Et alors, en le rencontrant à Venise, je lui avais dit Cher maître, on voit là derrière une parabole cruelle de cette tradition soviétique. Est-ce que vous sauvez quelque chose de cette période communiste comme est un homme sévère et grand? Il me dit non. Alors, j'avance un peu, je dis, mais cher maître, chaque année, dans la place Rouge, il y a des millions de personnes qui viennent rendre visite à ce mausolée de Lénine. Il me regarde, il me dit, Lénine, celui dont la terre n'a pas voulu. Voilà donc la manière par laquelle j'ai appris cette anecdote. J'ai essayé de trouver tous ces éléments chez les grands dissidents, les romans qui étaient connus en Occident. J'ai rien trouvé. Et j'avais l'impression que c'était une formule, tout en faisant la plus grande confiance à la mémoire et à l'intelligence de ce grand maître, me semblait quelque chose de trop profondément enraciné dans une tradition, mais que je n'arrivais pas à saisir. Bref, j'ai abandonné le thème, mais qui me travaillait dans la mémoire comme une espèce de lacune constante. Mais je n'osais plus lui demander parce que sa réponse avait été impérative. Mais voilà la force des images. Il y a deux étés, en plein août, une canicule terrible. J'accompagnais des amis voir ce cycle inoubliable du Sodoma. Donc un peintre qui opère à Monte Oliveto Maggiore dans les mêmes années où Dürer fait son voyage à Venise, nous sommes vraiment au commencement du XVIe siècle, et la chaleur était telle que je me suis trompé, ou plutôt je me suis réfugié le plus directement possible dans le cloître pour profiter de l'ombre. Et là, la faute a été felix culpa. Vous savez que pour bien comprendre les fresques, que une grande partie d'entre vous aura vu, mais je les conseille parce qu'il y a eu une restauration parfaite faite par l'Ufficio delle Pietre Dure de Florence, il faudrait suivre le chemin est-sud-ouest-nord, c'est-à-dire la vie, le développement de la vie, les miracles et la mort de Saint-Benoît. Mais moi, j'étais tellement pressé et poussé par la chaleur que j'entre directement dans la partie finale, miracle et mort de Saint-Benoît. Et c'est là que je trouve l'un des miracles les plus célèbres de Saint-Benoît. Donc, ici, nous sommes à peu près en taille réelle. C'est une fresque qui est à peu près sur 3 mètres de largeur. Et en bas de cette fresque, vous avez la légende que voici. « Come Benedetto fa portare il corpo di Cristo sopra al monaco che la terra non voleva ricevere. » La traduction, comment Benoît fait porter le corps du Christ, première ligne, deuxième ligne, sur le corps du moine que la terre ne voulait pas recevoir. Alors, dans ma mémoire, j'ai comme une sorte d'éclair et je me suis dit, mais voilà, solution trouvée. Alors, vous voyez cette belle figure, hein, assisté par un jeune, c'est pourquoi du reste on appelait Bazzi le Sodoma, il était toujours avec des élèves d'une grande beauté, disons, et ici il y a le corps du moine que la terre n'avait pas reçu. Cet épisode est relaté parmi les gestes miraculeux de la vie de Saint Benoît, écrite par Grégoire le Grand. Alors, c'est là que j'ai commencé mon enquête. Je me suis dit, d'abord, est-ce que la légende est une légende faite par les moines bénédictins? Est-ce que c'est une invention du peintre? Là, c'était plus difficile parce que c'était une commande spécifique du prieur du monastère. Quelle a été la circulation de cela? Alors, évidemment, tout de suite, dès que le nom de Grégoire le Grand apparaît, on sait très bien que c'est l'un des textes qui a mieux circulé en Europe. Mais on est à l'époque de Grégoire le Grand. Il y a quand même 13 siècles entre les deux. Et je vous lis ce passage. Je fais l'économie du latin. Je traduis donc ce texte en français. Un jour, un de ces moines, un petit garçon qui aimait ses parents outre mesure, se dirigea vers leur maison après être sorti du monastère sans bénédiction. Quand on part d'un monastère, le prieur vous donne la bénédiction pour avoir bon voyage. Le jour même, arrivé chez eux, il mourut. On l'enterra. Le lendemain, on trouva son corps rejeté de la fosse. On procéda à un nouvel enterrement, mais le jour suivant, on le trouva comme devant, rejeté et privé de sépulture. Alors on courut en hâte se jeter aux pieds de Saint Benoît, demandant en sanglotant qu'il voulût bien lui accorder sa grâce. Aussitôt, l'homme de Dieu donna aux parents la communion au corps du Seigneur en disant « Allez poser ce corps du Seigneur sur sa poitrine et puis enterrez-le. » Quand cela fut fait, la terre garda le corps qu'on lui avait confié et elle ne le rejeta plus. Donc c'est le moment où le corps, enfin l'hostie est mise sur la poitrine et vous voyez déjà ici les éléments donc de l'enterrement qui aura lieu évidemment successivement par rapport au moment qui est ici décrit. Le miracle devient rapidement, alors je vous dis, ce livre de la vie de Saint Benoît appartient, ça dépend des codices, mais c'est toujours un livre entier, le deuxième ou le quatrième, des dialogi de Grégoire le Grand, l'un des texte qui a eu la plus large diffusion au Moyen-Âge. Et donc, on sait que la circulation a été immense, à tel point que ce miracle devient rapidement un topos dans la vie des saints. Le cliché même que nous trouvons assez souvent dans la vie des saints, « Quem terra proiecit et vomuit », c'est-à-dire le miracle de celui qui est rejeté ou vomi par la terre et qui est repris après l'intervention de tel ou tel saint. Pensons par exemple au bienheureux Valentin dont la prière parvient à extirper de la terre un damné qui avait été enterré jusqu'au cou. Donc c'est un texte qui nous est transmis par les Acta Sanctorum du mois de juillet. Et Saint Valentin voit une personne qui est enterrée jusqu'au cou et qui est en train d'étouffer, et avec une prière, il le fait sortir, il le porte avec lui dans sa retraite, et la chose qui nous saisit le plus, parce que c'est évidemment les Acta Sanctorum, mais il dit dans cette caverne de solitaire, il resta usque ad mortem serviens domino, resta jusqu'à la mort pour servir le Seigneur qu'il avait, grâce à ce miracle, libéré de la mort. Sodoma, donc le peintre, et ses commanditaires connaissait bien donc la vie de saint Benoît, dont il existait, et là ça a été une découverte importante pour moi, un incunable récent, donc de quelques années auparavant, le cycle de fresques commençait par Signorelli et terminait par Sodoma. Et l'un des grands moments du commencement de la Renaissance italienne, disons à partir de la fin du XVe siècle jusqu'à 1506, et cet incunable était publié en 1490. Donc c'était vraiment un vient de paraître. À l'époque, on ne connaissait pas l'industrie du livre que nous avons aujourd'hui. Cet incunable présentait les histoires bénédictines qui étaient séparées des dialogues de Grégoire le Grand, c'est-à-dire la pensée propre de Grégoire. Le titre était le suivant, est le suivant, « Incipit secundus liber dialogorum beati Gregori pape de vita et miraculis beati patris nostri benedicti ». Il y a deux ou trois exemplaires, moi j'ai consulté, d'abord il y a eu une impression à Venise, 1487, et puis l'impression de Florence en 1515. Je vous renvoie à un très beau livre de Enzo Carli, un grand historien de l'art, « Storie di San Benedetto Monte Oliveto Maggiori ». En réalité, la source intermédiaire est peut-être la plus importante, parce que je me suis dit, oui, d'accord, là, nous avons un incunable, mais c'est un incunable latin. Ce que je veux savoir, c'est si ce texte vient de cet incunable, mais alors il faut se demander qui est-ce qui a autorisé la traduction en langue vulgaire italienne. On ne fait pas impunément ça par rapport à un texte de saint Grégoire le Grand, ou s'il y avait un intermédiaire. Et c'est là que, justement, j'ai pu trouver la traduction, si vous voulez, en langue vulgaire, donc en langue italienne, traduction qui avait été faite par un célèbre prédicateur du Moyen-Âge, Cavalca, et le titre est le suivant, « Volgarizzamento », donc traduction en langue italienne, « del dialogo di San Gregorio ». Voilà. Eh bien, ce texte que j'ai pu retrouver a, pour chacun des miracles, un chapitre, et toutes les légendes de Monte Oliveto Maggiore sont exactement les titres de ce manuscrit, de cette traduction italienne. Le chapitre qui correspond à cette fresque 24, parce que nous sommes déjà dans la partie finale de la vie de Benoît, dit en italien exactement la même formule. Il y a juste une inversion du sujet. « Come fece portare » ici, « fa portare » et dans le texte imprimé, c'est le temps passé, non pas le présent, mais le temps passé, « come fece portare il corpo di Cristo sopra il monaco morto, il quale la terra lo riceveva. » Donc, comme vous voyez, il y a une parfaite, sauf le temps verbal, une parfaite coïncidence. Et alors j'ai repris toutes les autres légendes pour vérifier si les autres légendes des autres chapitres et fresques coïncidaient. Eh bien, il y a une correspondance parfaite. Par exemple, sur la cartouche de notre fresque à côté, c'est toujours un miracle. Come Benedetto risuscita il monacello, le petit moine, cui era caduto lo muro addosso, et dans le récit du miracle, texte écrit, come risuscitò il monacello a cui era caduto il muro addosso. E ancora, dans la légende de la fresque Notre Miracle, come Benedetto scioglie, libera uno contadino, un paesano, che era legato solo a guardarlo, e le sommaire de la traduction, come pur guardando uno villano che era legato lo sciolse. C'est-à-dire, comment Saint-Benoît délia un paysan qui était lié simplement avec son regard. Alors, vous voyez, j'ai toute la liste, mais tous les titres des légendes de cette magnifique représentation de la vie de Saint-Benoît coïncide avec cette vulgarisation. Ça signifie, comme les historiens l'ont montré, que le prieur de l'abbaye a voulu vraiment faire une mise en scène autorisée de la vie de Saint-Benoît. Je vais aussi rappeler que cette traduction faite par Domenico Cavalca au Moyen-Âge a eu une très grande diffusion de manuscrits, et l'incunable en est, pour ainsi dire, une sorte de consécration finale. Il y a un autre cycle, là, plus facile pour ceux qui souhaitent faire un voyage sur les traces de Saint-Benoît, plus facile, c'est à Florence, dans l'abbaye de San Miniato al Monte. Si vous passez avant midi, le soleil est vraiment là sur la façade, c'est un moment magique. Vous entrez dans une chapelle latérale qui appartient aujourd'hui à la sacristie, bien, il y a les histoires de Saint-Benoît, mais bien réduites. Il s'agit d'une dizaine de scènes, alors qu'ici nous avons toute la vie de Saint-Benoît. Et c'est un élément d'une extrême fascination également. Mais mon sujet, mon problème, au lieu de se résoudre, se compliquait. C'est compliqué parce que j'avais plus ou moins eu la confirmation que tradition de Monte Oliveto Maggiore venait d'un texte autorisé et célèbre, mais d'ici de Sienne à Moscou, le chemin est long, aussi bien en termes de kilomètres que de siècles. Donc, j'étais restitué à ma faim et à mon ignorance, et j'ai commencé donc un voyage européen parmi les siècles et les temps. Et tout d'abord, j'ai pu vérifier que la vie de Benoît, donc compilée en latin par Grégoire le Grand, fut traduite presque tout de suite en grec par le pape Zacharie au 8e siècle. Mais cette traduction grecque ne nous explique pas, ou seulement partiellement, le fait que Saint-Benoît est présent avec Cyrille et Méthode dans la tradition proto-slave, et puis slave, et puis russe, comme l'un des grands fondateurs et protecteurs de l'Europe orthodoxe jusqu'au temps présent. Mais le problème est le fait qu'on peut très bien connaître la vie de Saint-Benoît, mais pourquoi s'arrêter sur ce miracle? Là, il y a une question, si vous voulez, de précédence mnémonique. C'est comme si on avait lu la Divine Comédie, mais pourquoi cet épisode? Il faut trouver quelque chose qui nous conduise avec certitude à la centralité de ce miracle. Et là, j'ai grâce à une conférence qui a été donnée ici à l'Institut d'études avancées à Paris par une jeune doctorante russe, la confirmation qu'il y a eu un moment, un texte dont le titre latin est « Magnum Speculum Exemplorum », publié au XVIIe siècle, et qui fut après largement, et c'était le sujet de cette conférence, diffusé largement en Pologne et Russie. Publié d'abord à Köln, à Cologne, en 1605, et connu une diffusion considérable. J'ai trouvé une quinzaine d'éditions, ne fût-ce qu'au XVIIe siècle. Alors, évidemment, cette question se pose encore plus profondément au point de vue théologique. Pourquoi ? Parce que a-t-on le droit ou non, ça a suscité des querelles immenses, a-t-on le droit ou non de donner la communion, c'est-à-dire le corps du Christ vivant, à un défunt ? Vous savez que depuis le Moyen Âge, on a développé la théorie, ou disons le débat théologique, sur deux jugements, l'un de l'âme singulière à la mort et l'autre, le jugement universel à la fin des temps humains. Alors, peut-on modifier le jugement personnel qui se fait dès qu'on meurt par l'intervention d'un miracle ? Alors là, il y avait toute cette querelle en cours, c'est-à-dire sur la question de savoir si on pouvait administrer l'Eucharistie aux défunts. Et il y a toutes sortes de discussions, même au XVIIIe siècle, et surtout dans ce qu'on appelle les Tractati de Sacramentis. Il ne fallait pas, évidemment, abonder dans la distribution de l'Eucharistie, parce qu'on risquait de mettre, comment dirais-je, le Christ contre le Christ, ou le Christ contre le Père. Si on donne l'Eucharistie, c'est pour changer, pour ainsi dire, même à la dernière minute, ou après la dernière minute, la vie du défunt, alors que le jugement peut déjà avoir été prononcé. Et c'est pourquoi, du reste, dans plusieurs répertoires, ce miracle ne figure pas, précisément parce qu'on était dans l'incertitude si oui ou non fallait-il admettre ce type de miracle. Ce speculum magnum miraculorum, donc recueil des grands miracles, choisit deux miracles de saint Benoît, dont l'un est précisément celui-là. Et dans ce travail de Madame Smirnova, traduction russe du Magnum Speculum Exemplorum, la tradition populaire et sa mise en image, nous avons eu la possibilité de savoir que jusqu'au XIXe siècle, ce texte est reproduit et puis traduit en russe. Mais le problème était de savoir si ces traductions en langue russe arrive jusqu'à l'époque de Lénine. Eh bien, là, c'est un chercheur italien qui s'est spécialisé sur la littérature religieuse ancienne slave et slave qui a publié tout un recueil sur la... Son nom est Cristiano Diddi, a publié toute une série de contributions et de livres jusqu'aux dernières années sur les anciennes versions, je retraduis en français, des dialogues de Grégoire et leur fortune, leur réception dans le monde slave. Et puis, plus récemment, un livre complet en 2000, les dialogues de Grégoire le Grand dans les versions slaves. Donc nous savons que dans les temps les plus récents, et notamment en 1906 dans l'une des Isvetiae. Cette vie et ces miracles de Saint Benoît ont été publiés en russe. Alors, on est arrivé au bord de la question. Nous savons désormais que ce texte est traduit très rapidement en grec. Du grec, ce texte remonte à l'ancien slave. De l'ancien slave, il y a cette espèce, je dirais, de concentration, le speculum magnum exemplorum ou miraculorum, traduction de ce speculum qui contient ce miracle en russe et republication en 1906 en russe. On pouvait évidemment rappeler le fait que dans l'une de ces exhortations, le pape slave, c'est-à-dire Jean-Paul II, avait tissé l'éloge de la parfaite unité d'Orient et d'Occident en rappelant, je n'ai pas le temps de vous lire ce texte célèbre, c'est une encyclique même, Slavorum Apostoli, où les apôtres des Slaves ne sont pas seulement Cyril et Méthode, mais Cyril, Méthode et Benoît. Et donc, il y avait dans ce texte une espèce de liaison complète. C'est peut-être un regard optimiste sur l'unité d'Occident et de l'Orient européen. Et évidemment, comme l'ancien porte-parole de Mikhail Gorbatchev me l'a fait remarquer, il m'a dit, mon cher ami, les révolutionnaires n'avaient pas le temps de lire cette Isvetia que tu cites. Donc, il fallait trouver encore autre chose. En effet, la question s'est posée en sachant que non seulement il y avait cette remarque, cette cave, mais aussi le fait que j'avais rien trouvé dans la littérature des dissidents. Il n'y avait pas cette présence. Donc, j'ai dû remonter à une autre possibilité. J'arrive jusqu'au bord de la mer, mais je ne peux pas passer sur le terrain solide de la preuve. Il est toutefois admis, je crois, de réfléchir non seulement en termes de mémoire sacrée, mais surtout de mémoire collective. Je le dis souvent dans mes cours. Dans ce cas, précisément, celui que la terre n'a pas voulu recevoir ne serait pas tant le vestige d'une tradition bénédictine, ou simplement bénédictine, que celui d'un jugement de Dieu, ce qu'on appelait, dans le droit, jugement de Dieu ou ordalie médiévale, dont l'héritage est toujours bien présent en Europe jusqu'au XVIIe siècle. Il s'agissait du jugement par l'épreuve de l'eau ou du feu, un élément pur comme le feu prévoit deux issues possibles pour les accusés qui sont précipités. Pardonnez-moi, un élément pur comme l'eau prévoit deux issues possibles pour les accusés précipités dans l'eau, dans le fleuve, pieds et poings liés. Et les deux sont les suivantes. S'ils sont engloutis, ils sont déclarés innocents, car ils sont accueillis dans l'élément de l'innocence, mais c'est trop tard pour les sauver. Si, au contraire, ils remontent à la surface et surnagent, ils sont coupables, car l'eau ne veut pas d'eux. L'eau ne veut pas d'eux, donc ils sont sauvés, mais très précairement, parce qu'après ils seront condamnés par ce type de preuve. Là, je fais une citation venant d'un très grand livre d'un maître turinois du droit, d'histoire du droit, Les Ordalies, études d'histoire du droit et de droit comparé européen. tout un chapitre lui est consacré, c'est-à-dire Lord Ali de Long. Mais déjà dans le De Vita Sua, ici on est pleinement en France, Guibert de Nogent, 1053-1125, nous en offre un exemple particulièrement frappant qui concerne deux individus accusés d'hérésie. Et je vous cite ce passage parce que ça vous montre que Lord Ali est un élément constituant le droit qui n'a pas cessé de travailler la conscience européenne. Je dis à l'évêque, puisque les témoins qui ont entendu ces gens professer leur dogme impie sont absents, soumettez-les au jugement de l'eau pour lequel tout est déjà prêt. Quand il n'y a pas de témoignage vérifiable, on fait la preuve de l'eau ou la preuve du feu. Il existait en effet une certaine matrone que Clément avait ensorcelée pendant toute une année, et de plus, il y avait un diacre qui avait entendu de la propre bouche du dit Clément d'autres discours pleins d'une méchante hérésie. Le prélat célébra donc la messe et les deux frères, accusés, reçurent de sa main la Sainte Communion qu'il leur donna en prononçant ces paroles. « Que le corps et le sang du Seigneur vous servent aujourd'hui d'épreuve. » Cela fait, le très pieux évêque et l'archidiacre Pierre, homme de la foi la plus pure, et qui avait rejeté toutes les promesses que faisaient ces gens-là pour obtenir de n'être point soumis au jugement, se rendirent à l'endroit où l'eau était préparée. L'évêque, rependant force larmes, entonna les litanies, puis fit l'exorcisme. Ces deux frères jurèrent alors par serment que jamais ils n'avaient cru ni enseigné rien de contraire à notre sainte foi. Cependant, à peine Clément, l'un des deux accusés, fut-il jeté dans le bassin qu'il surnagea comme l'aurait fait une branche légère. À cette vue, toute l'église retentit d'une foule de cris de joie. Cette affaire y avait en effet attiré un si grand concours d'individus de l'un et de l'autre sexe qu'aucun des assistants ne se rappelait y avoir jamais vu un si nombreux. L'autre confessa son horreur, mais comme il refusait d'en faire pénitence, on les jeta dans la prison avec son frère, que le jugement avait convaincu. Convaincu au sens que l'eau l'avait repoussé. Alors, l'évêque qui est pieux se rend, là je résume, au synode de Beauvais, afin de consulter les autres confrères, les autres évêques, sur ce qu'il convenait de faire. Mais le peuple des fidèles, craignant que le clergé ne montrât trop de mollesse, c'est-à-dire trop de pardon et de miséricorde, courut pendant notre absence à la prison, enleva ses hérétiques, éleva un bûcher hors de la ville et les y brûla. C'est ainsi que, pour empêcher que le chancre de cette hérésie ne se propagea, le peuple de Dieu déploya contre ces misérables un zèle bien légitime. Mais si vous vous rendez aujourd'hui encore à Laon, face à la cathédrale, ben, vous trouvez un placard disant la même chose. Parce que là aussi, il y a eu, à l'époque du Moyen-Âge, ce même type d'épreuve qui est témoigné par les chroniques locales. Dans au XVIIe siècle, un auteur allemand nous fait état minutieux d'un procès, encore une fois, de jugement par l'eau, cette fois contre des sorcières. Tractatus duos singulares de examine sagarum super aquam frigidam projectarum. C'est-à-dire, on a pris des sorcières, on l'a jeté dans l'eau, un Basse-Saxe, et là aussi, il y a eu l'épreuve de l'eau qui finit naturellement pour convaincre que ces deux dames étaient coupables. Donc, un répertoire, et là j'arrive vraiment au XIXe siècle, de mœurs et coutumes de France atteste qu'encore au XIXe siècle, il y a un fort ancrage de cette tradition judiciaire de l'épreuve de l'eau ou du feu. Et là, je cite du dictionnaire historique des institutions, mœurs et coutumes de la France, de Chéruel, publié chez Hachette en 1857. Et voilà le passage. Un écrivain moderne a cherché l'explication des épreuves de l'eau et du feu dans le paganisme du Nord, c'est-à-dire dans des traditions celtiques. Et il s'agit bien d'un maître reconnu, Ozanam, dans son livre « Les Germains avant le christianisme ». En matière criminelle, dit Ozanam, si le crime n'a pas eu de spectateur, la nature, ce témoin silencieux mais vivant, trouvera une voie pour le dénoncer. De là, les épreuves de l'eau et du feu qui ont leur raison plus profonde qu'on ne croit dans le paganisme du Nord. L'eau et le feu ne sont pas seulement les instruments de la divinité, ces éléments incorruptibles, dont les quatre éléments fondateurs, on remonte vraiment à la philosophie grecque, hein, ces éléments incorruptibles et parfaitement purs voilent des divinités puissantes qui jugent, qui discernent le malfaiteur, qui ne peuvent souffrir sa présence, qui le repoussent à leur manière. Voilà pourquoi, dans le jugement par le feu, le fer rouge brûle la main du coupable et il le contraint de se retirer, tandis que le jugement par l'eau, le coupable est celui qu'elle l'eau ne veut pas recevoir, encore une fois la formule, celui qu'elle ne submerge point. Parce que si elle le reçoit, oui, c'est vrai qu'elle le submerge, mais on meurt, disons, en bonne santé, alors que si on est refusé, on est précairement sauvé, mais après, il y a le bûcher comme nous l'avons vu. Là aussi, j'avais simplement la confirmation de la continuité de cette ordalie. Et notre temps présent est en train de redescendre du droit rationnel aux ordalies. Commencez à lire les titres des journaux, vous voyez que de plus en plus des justices sommaires se font en revenant à un temps qu'on croyait avoir oublié. Mais mon problème n'était pas résolu, non plus par l'ordalie, puisque j'arrivais au XIXe siècle. Mais là, fort heureusement, les livres circulent et donc j'ai eu droit, grâce à une doctorante de Saint-Pétersbourg, de pouvoir lire le livre de 1997, donc après la fin de, disons, l'Empire soviétique, Yuri Mikhailovich Lapoukine publie un grand volume judiciaire ou de l'histoire du droit, Maladie, mort et embaumement de Lénine. Il y a d'abord tous les signes de la maladie, puis la mort, et puis, en effet, cette cérémonie de l'embaumement. Vous savez que cet embaumement a été très contrasté, parce que Trotsky et Sonel, son groupe, disaient « Non, là, il faut, pour Lénine, suivre la même méthode que pour Marx, donc il faut incinérer le corps », alors que Staline, qui savait que Lénine, Staline avec ses espions, savait que Lénine ne voulait surtout pas avoir comme successeur Staline, montre un zèle immédiat et il dit « Non, il faut embaumer Lénine afin que tout le peuple russe puisse avoir la possibilité de rendre hommage à ce prophète. » Et dans le livre de Mikhailovich Lopoukine, il y a un chapitre final où la minutieuse analyse de son déclin se clôt dans le dernier chapitre dont le titre est « Épilogue parabole » par une interrogation inquiète que cette doctorante m'a traduit du russe. Alors, je cite, « Alors on a commencé à se demander, que faire du prophète qui repose dans le cercueil de verre ?» Les uns ont dit, mais derrière vous voyez déjà les noms que je vous ai évoqués, il faut restituer son corps à la terre, comme on le fait pour tous les mortels. D'autres, au contraire, ont dit, on ne peut pas le restituer à la terre, car c'est un prophète et un messie. Et personne ne sait plus à présent comment continuer à vivre, comment pouvoir continuer la vie quotidienne quand il y a cette bifurcation si dramatique. Staline, donc, prit le pouvoir, décida de ne pas restituer à la terre le corps de Lénine, car ce prophète et messie devait être voué au pèlerinage et au culte des masses soviétiques, ce qui a eu lieu, en effet. Quant au sentiment de l'auteur que je vous ai cité, on le devine à l'exergue introductif au chapitre 3, après la mort de Lénine, tiré du Lévitique 1:26, « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez point d'image taillée. » La progressive mythification religieuse de la figure de Lénine n'est pas seulement une des conséquences posthumes de la bataille politique entre Trotsky et Staline, comme l'a lucidement analysé il y a des décennies Nicolas Berdiaev, elle prend racine dans l'opposition spéculaire de deux pouvoirs monocratiques, l'absolutisme religieux, intolérant et sectaire de Konstantin Petrovitch Pobiedontsev, 1827-1907, et l'absolutisme politique et non moins autocratique de Lénine. Et je cite ce passage du livre célèbre, mais il faudrait toujours l'avoir à l'esprit, de Berdiaev, publié en 1936, donc juste une décennie après la prise de pouvoir de Staline, « Les sources et le sens du communisme russe », traduit tout de suite chez Gallimard en 1938. Et ce livre a été republié en 1951, mais déjà d'autres 60 ans se sont écoulés, il faudrait le republier. Vous voyez la mise en scène politico-religieuse que Berdiaev nous fait. Durant 25 ans, le célèbre procureur du Saint-Synode, Pobiedontsev, a dirigé l'Église russe et idéologiquement l'Empire. Il était le chef spirituel de l'ancienne Russie monarchique de l'époque de la décadence. Lénine fut le chef spirituel de la nouvelle Russie communiste. Pendant des longues années, il régna en maître sur le mouvement qui préparait la révolution, et après la révolution, il gouverna toute la Russie. Pobiedontsev et Lénine incarnent deux idées diamétralement opposées. Il n'est pas moins vrai qu'il existe une ressemblance entre les deux structures spirituelles, qu'en beaucoup de points, ils appartiennent à un seul et même type. J'ai un jour défini la conception du monde de Pobiedontsev, un nihilisme sur le terrain religieux. Il était nihiliste par rapport à l'homme et au monde. Il ne croyait pas à l'homme et comptait la nature humaine comme stupide et nulle. La vie humaine, la vie mondiale, ne soulevait que son dédain. Et ce dédain, il l'attendait aux évêques à qui il avait affaire en tant que procureur de Saint-Synode. Se refusant à leur accorder quelque vertu spirituelle que ce soit, il estimait qu'il devait être soumis au contrôle du représentant de la puissance gouvernementale. Du poste suprême qu'il occupait, il soumit l'Église à l'État parce qu'il ne croyait aux vertus humaines, ni des prêtres, ni des laïcs. L'homme est si désespérément mauvais que le seul espoir de le sauver est de le tenir en main fermement. On ne saurait lui donner la liberté. Ça, pour le chef de du synode. Et maintenant pour Lénine. N'y a-t-il pas dans ses traits une certaine ressemblance avec les traits de Lénine ? Lénine non plus ne croyait pas dans l'homme. Lui aussi avait à l'égard du monde une attitude nihiliste. Il nourrissait envers les hommes un mépris cynique, jugeant lui aussi que le seul moyen de les sauver est de les tenir en lisière. De même que Pobiedontsev, il pense qu'on ne peut organiser la vie des êtres que par la contrainte et par la force. Comme lui, il méprise la hiérarchie ecclésiastique qu'il a sous ses ordres et qui est sa hiérarchie révolutionnaire. Il perçoit les communistes et doute de leur qualité humaine. Pour Lénine aussi, le monde et l'homme sont infectés par le péché. Ce péché, à ses yeux, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, le péché de l'inégalité de classe. Combien il est plus important pour le destin de la Russie d'observer que l'homme qui l'a gouverné avant la révolution, Podzienon, et celui qui l'a gouverné après, n'ont cru ni l'un ni l'autre dans la personnalité humaine et que l'un et l'autre ont regardé le monde en nihiliste. Le pouvoir en Russie ne peut pas s'avérer humain. 1936. En tout cas, l'un et l'autre, à leur façon, ont donné corps aux tendances apocalyptiques de la Russie de la fin du XIXe siècle et tendances qu'elles ont précipitées, réalisées comme possibilité historique. Berdiaev observe dans son chapitre conclusif, consacré à un parallèle risqué entre le communisme et le christianisme, que le communisme, vu de l'Occident, est l'une des nombreuses théocraties qui se sont succédées depuis le Moyen-Âge, mais vu de l'Orient, il correspond plutôt au caractère messianique de l'âme russe, et je le cite, « J'ai voulu montrer dans ce livre que le communisme russe est plus traditionnaliste qu'on l'a coutume de le penser et qu'il est une transformation, une déformation de la vieille idée messianique russe. » En appliquant donc ce texte et cette tradition, nous pourrions conclure, et nous allons vraiment conclure, que le mausolée de Lénine apporterait donc tout à la fois la confirmation et le démenti de ce messianisme, la forme figée d'un avènement sans résurrection. Il est toujours là, en restauration quand même, pendant ces mois. Certes, il resterait bien une hypothèse glorieuse si l'on pense au fragment de Varron, là je reviens à mes sources latines, « Quem id circo terra non cepit et celum recepit ». Pour cette raison, la terre ne l'a pas voulu et le ciel l'a reçu. « Quod terra non cepit et celum recepit ». L'hypothèse que Vladimir Ilitch et accomplit son assomption vers le ciel reste, par cette citation, tout à fait possible, mais des travaux récents sur ce fragment de Varron ont montré qu'il aurait fort à faire face à des concurrents plus sérieux comme Orion et Hercule. Vous voyez, une assomption avec Hercule et Orion, ça devient compliqué. Quoi qu'il en soit, il reste là, pour l'instant, embaumé dans son mausolée, et il conviendrait de préciser avec Ottar Yosselani celui que la terre ni le ciel ne voulurent recevoir. Parmi les nombreuses exemplarités possibles de ce mythe, il ne reste donc plus qu'accepter la représentation qu'a donnée Salvador Dali en 1931. Là, je me permets de vous montrer ce tableau célèbre que vous trouvez au centre Pompidou. Le titre est « Hallucination partielle, six images de Lénine sur un piano ». Il y a un tas, mais vraiment un tas d'interprétations, parce que vous voyez aussi une porte entrouverte, une figure derrière. En réalité, on n'est pas en train de jouer, mais le pianiste, ainsi dit, est assis à une certaine distance du piano et il y a six images de Lénine sur ce piano, n'est-ce pas ? Pour vous montrer encore un détail, voilà la représentation. Il faut que vous vraiment vous rendiez au centre Pompidou pour en voir donc une variation sur le destin de Lénine, représenté comme une variation de tonalité, parce que les touches, comme vous le voyez, sont différentes, au centre d'une hallucination collective qui inspira et traversa le XXe siècle. À moins que, pour revenir à notre maison, au Collège de France, il ne faille simplement reconnaître avec Claude Lévi-Strauss, et là je le cite, qu'il n'existe pas de version vraie du mythe dont toutes les autres seraient des copies ou des échos déformés, et puis sa conclusion, toutes les versions du mythe appartiennent au mythe. Donc vous voyez que de Saint Grégoire le Grand, Speculum Magnum Miraculorum, les Ordali, la lecture de Berdiaev et celle de Dali, ben, tout ça contribue au mythe. Et que l'on finit, quand on se met en quête, comme j'ai fait, hélas, d'un motif dans le tapis ou d'un motif dans les fresques, quand je dis le motif dans le tapis, je me réfère bien évidemment au livre d'Henry James, dont la traduction française, elle aussi, oscille. Les traductions de ce texte célèbre de 1896 sont le motif dans le tapis ou encore l'image dans le tapis. On n'a pas la possibilité de déchiffrer le caractère savamment indicible et indécidable de la trame. Donc, quand on se met dans ces histoires-là, on risque en effet de se mettre en quête d'un motif dans le tapis et on finit par devenir la proie de son rêve, comme Pascal le supposait. Je vous le cite parce que je viens de donner le cours sur Pascal. Et qui doute que si on rêvait en compagnie et que par hasard les songes s'accordassent, ce qui est assez ordinaire, et qu'on veillât en solitude, donc sans avoir, je dirais, le consensus des autres rêves, on ne crut les choses renversées. Enfin, comme on rêve souvent qu'on rêve, entassant un songe sur l'autre, ne se peut-il pas faire que cette moitié de la vie n'est elle-même qu'un songe sur lequel les autres sont hantés. Donc, je vous laisse à ce rêve collectif, qui a été hélas un cauchemar collectif, mais qui peut être remis, je dirais, dans une perspective plus longue et qui montre comment l'Europe des images est quelque chose de très sérieux et qu'on peut passer une journée de canicule pour retrouver même des traits fondamentaux de l'histoire européenne. Je remercie beaucoup Victor Stoikita de m'avoir accueilli.